Chapitre 34. Seul, tu restes 1. 2, tu deviens 3. 10, tu représentes 100. 100, tu es plus fort que 1000. 1000, tu vaux l'énergie combinée de toutes les étoiles. Proverbe de la région Orsite d'Afrique. Pays Orsite. Les 5 qui se tenaient devant eux, immobiles, formaient un groupe pour le moins hétéroclite. Un géant barbu aux cheveux longs et emmêlés, un petit homme difforme au crâne quasiment glabre, aux yeux globuleux et à la peau blanche, une jeune femme brune vêtue d'un seul pagne de peau, une deuxième à la chevelure blanche, enveloppée dans un bout de tissu, et enfin, un garçon d'une vingtaine d'années aux joues ombrées de barbe et aux yeux très clairs. Des Orsites, maculés de taches de boue. La fille aux cheveux blancs braquait sur eux un pistolet vétuste. « Lâche immédiatement cette arme !» aboya le soldat qui la tenait en ligne de mire. Elle ne bougeait pas, comme tétanisée. Ganesh craignit que le militaire ne tire avant de leur laisser le temps de s'expliquer. Le garçon aux yeux clairs et à la barbe clairsemée s'avança vers eux d'un pas tranquille. Une blessure récente était visible au-dessus de sa hanche gauche. Des égratignures parsemaient son torse nu.
« Bouge plus !»
hurla l'autre soldat.
« Ne tirez surtout pas !» intervint Ganesh. « Ils n'ont pas d'intention agressive !»« Qu'est-ce que t'en sais ?»
rétorqua Leif. Ganesh écarta les bras, s'avançant à son tour vers le garçon et plongea son regard dans le sien. Il eut la sensation de s'immerger corps et âme dans une source claire, fraîche, lumineuse. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Je suis Delune, du clan des guérisseurs du haut lieu, » répondit le garçon d'une voix calme. Il désigna la fille aux cheveux blancs. « Elle, c'est Naya, du clan du Pégase. Lui, s'appelle Rodag. » Le géant s'inclina. « Elle, c'est Yana, du clan des Scorpes. Et lui, Yosp. » Ses yeux revinrent se poser sur Ganesh. « Et vous, qui êtes-vous ? » « Nous sommes des citadins de Nilopa. Mon nom est Ganesh Parvati. Elle s'appelle Issa, lui c'est Leif, et les deux autres sont... « Vance !» dit l'un des soldats. « Kowan !» fit l'autre. Ils gardèrent leurs fusils d'assaut pointés sur les Orsites. « Nous sommes pourchassés par les cavaliers de l'Apocalypse, » reprit Delune. « Nous pensons qu'ils viennent de ces bâtiments. » « Comment décririez-vous ces cavaliers ?» Ce sont sans doute des machines copiées sur le modèle humain. De temps à autre, ils sont obligés de s'arrêter pour être alimentés par des engins volants. Ils ne connaissent ni la souffrance ni la pitié. Ils exterminent toutes les populations hors site avec des armes à feu. « La parfaite description de nos tueurs !» s'écria Issa. Ganesh se rendit compte que les hors sites, avec leurs maigres moyens, étaient arrivés exactement au même endroit et aux mêmes conclusions qu'eux. Hormis le petit homme, il ne semblait pratiquement pas déformé par les mutations. Le contraste entre les cheveux blancs et la jeunesse de la fille au pistolet ne relevait pas d'anomalie génétique. « Comment leur avez-vous échappé ?»«
La chance nous a grandement aidés, » répondit Delune.
« Ainsi que les prémonitions de Yosp. Nous savons grâce à lui qu'une force terrible se cache dans ces bâtiments. C'est elle qui commande les cavaliers. Nous sommes venus ici pour la combattre. » « Quelle est la nature de cette force, selon vous ?» Nous savons seulement qu'elle n'est pas humaine. » Ganesh chassa les pensées sombres qui l'assaillaient. Le sourire acide et la douceur de la peau d'Ava le hantaient.
« Nous lui donnons le nom d'ombre, » reprit-il.
« Cette force dont tu parles a également exterminé les populations des cités. Vous avez une idée de la façon de la combattre ?»«
Nous pensons qu'il faut ne pas avoir peur d'elle et agir d'une façon qu'elle n'attend pas. »«
J'ai peur !»
bredouilla le petit homme. Delune s'approcha de lui et lui posa la main sur l'épaule.
« Yosp est le plus courageux de nous tous. Sa tribu elle-même a été anéantie par les cavaliers. »
Ganesh fit signe aux soldats de baisser leurs armes. « Comment comptez-vous procéder ? » ?»«
Nous fouillerons les bâtiments l'un après l'autre, jusqu'à ce que nous trouvions la force. »
« Vous pensez que les tueurs, les cavaliers, vous laisseront faire ?» Delune disciplina les mèches qui lui balayaient le visage.
« Pas davantage que nous ne les laisserons faire. »«
Nous pouvons unir nos forces, » proposa Ganesh. Un large sourire illumina le visage de Delune. Plus nous serons nombreux et soudés, et plus nos chances augmenteront. Les hommes se perdent lorsqu'ils se séparent. C'est également ce que je...
Minute ! Coupa Leif. On ne sait rien de ces sauvages !
Ces sauvages, comme tu dis, sont arrivés au même endroit, au même moment et aux mêmes conclusions que nous, répliqua Ganesh. Le front de Leif se plissa, lui donnant un air buté.
Les Orsites ont des réactions imprévisibles. Ils resteront totalement hors de contrôle.
Et nous, qu'est-ce que nous contrôlons ?
S'emporta Ganesh.
S'ils sont parvenus jusqu'ici en étant poursuivis par des robots tueurs, c'est qu'ils ont des choses à nous apprendre. Nous, nous avons utilisé un hélico jusqu'à Barper, ce qui n'est pas leur cas.
Tu penses vraiment qu'on va neutraliser ces machines à tuer avec cette poignée de Orsites ? Ça fait une putain d'armée !
Il ne reste rien de la prétendue civilisation des cités, intervint Issa.
Un peu d'humilité ne nous ferait pas de mal, Leif.
J'emmerde les remords tardifs, répliqua Leif.
Il tendit le bras en direction de la fille aux cheveux blancs.
Ils n'ont pas d'autre arme que cette pétoire rouillée. Je sais pas si les ombres se terrent dans le coin, mais je sais que nous n'avons aucune chance contre elles, que nous ferions mieux de foutre le camp.
Fuir ferait de nous des animaux traqués, déclara Delune.
Et alors ?
Alors nous finirions par oublier que nous sommes des êtres humains.
Et qu'est-ce qui vaut mieux ? Riposta Leif. Un animal traqué vivant ou un être humain mort ?
Nous mourrons de toute façon, autant choisir de mourir comme des hommes.
Mourir ?
Un voile gris glissa sur le visage de Leif.
Putain ! Nous étions sur le point d'échapper à ça. Grâce à la génétique, nous avions presque percé le secret de l'immortalité.
Chaque fois que les hommes se sont pris pour des dieux, ils ont failli disparaître.
Les dieux ont disparu depuis bien longtemps dans les cités, mon jeune ami. Seuls les esprits crédules vénèrent les idoles qu'ils appellent les dieux. Pour ma part...
Un sifflement interrompit Leif. Un drone survola les environs avant de piquer vers le sol et de disparaître derrière les bâtiments. Ganesh croisa le regard farouche de la fille aux cheveux blancs. Il y lut de la peur, mais aussi un amour immense lorsqu'il se posait sur Delune. Le visage d'Ava lui revint à l'esprit. Il n'y avait rien de plus beau que d'aimer et d'être aimé.
« Assez perdu de temps !»
Il ne reconnut pas sa propre voix, tranchante, presque métallique.
« Si tu veux partir, Leif, personne ne te retient !»
Le petit homme difforme pointa soudain le bras en direction de Ganesh.
« Les heures me parlent ! Elles me disent : la force se cache en lui !»«
Qu'est-ce qu'il raconte ce gnome ?»
cracha Leif.
« Les heures me disent : la force se cache en lui !»
répéta Yosp.
« C'est quoi encore cette histoire d'heure, putain ?»«
Je suppose que ces heures-là n'ont rien à voir avec la mesure de temps, » dit Ganesh. « Il parle probablement des filles de Zeus dans la mythologie grecque, des portières du ciel. »«
Yosp entend et voit des choses que nous ne percevons pas, » intervint Naya. « Il dit toujours la vérité. »«
On nage en plein délire, » ricana Leif.
Les yeux de Delune s'enfoncèrent dans ceux de Ganesh.
Est-ce que tu comprends ce que tente de nous dire Yosp ?
Ganesh demeura plongé dans ses pensées. Il ne lui fallut pas longtemps pour établir le lien entre la force évoquée par le petit homme et le MDC. La prise de contrôle de sa biopuce sur son cerveau et son corps, l'amélioration spectaculaire de ses perceptions lui avait permis de se sortir des griffes des hommes de main de Leito Mercante, de mettre en fuite les agresseurs d'Ava à New York, d'échapper aux bombes des drones dans la ville en ruine occupée par les transfuges de la cité. Il s'approcha du petit homme dont les yeux globuleux s'emplirent de frayeur et dont les veines énormes palpitèrent le long de ses tempes. « Est-ce que tu perçois cette force chez les autres membres de notre groupe ?» Yosp baissa la tête.
« Les heures ne me disent pas. Elles me disent juste que la force est en toi. La force qui veut tuer tous les hommes. »
« Est-ce que je suis un danger pour vous ?»
« N'importe quoi !» grogna Leif. « Tu vas tout de même pas ! Ferme-la, Leif !» siffla Issa.
Yosp gratta vigoureusement son crâne presque glabre.
« Les heures me disent, tu es un danger pour nous. Mais nous ne pourrons pas combattre la force sans toi. »
« Est-ce que la force est liée à la puce que j'ai dans le cerveau ?»
Les yeux du petit homme voltigèrent d'un visage à l'autre comme des oiseaux affolés.
Nous, les habitants des cités, nous avons un petit appareil greffé dans le cerveau, expliqua Ganesh, relié à une intelligence artificielle qu'on appelle la matrice. Est-ce que ça a un rapport avec ce que les Earth disent ?
Yosp haussa les épaules.
Elles ne me disent pas. Elles ne me disent pas.
S'ensuivit un temps de silence brisé par Leif.
Si on écoutait cette espèce de devin, on devrait se débarrasser de toi.
Il a dit aussi que nous avions besoin de lui, objecta Delune. Nous ne sommes plus reliés aux matrices de toute façon, déclara Ganesh. Ma puce est inopérante.
Qu'est-ce que tu fais des satellites ?
Grommela Leif.
La plupart se sont désagrégés dans l'atmosphère. Les derniers sont devenus erratiques. Pourquoi ta biopuce aurait-elle un lien avec la force et pas les nôtres ? Demanda Issa.
On m'a implanté une puce spéciale, comme à tous les fouineurs. La mienne court-circuitait mon cerveau et prenait le contrôle total des événements en cas de nécessité.
Elle était pourtant censée préserver la liberté de chaque citadin. Les lois sur le libre arbitre étaient très claires à ce sujet.
Les lois, quelle fumisterie !
Ricana Leif.
Je suggère que nous commencions l'exploration des bâtiments, proposa Delune. Un grésillement précéda de quelques secondes l'apparition d'un drone, au-dessus du bâtiment le plus proche.
Il est temps, approuva Ganesh.
Dernière statistique. Environ 1 million d'humains ancienne génération vivant, recensés sur Terre. 270 000 sur le continent de l'Europe. 130 000 sur les deux continents de l'Amérique. 400 000 sur le continent de l'Asie. 150 000 sur le continent de l'Afrique. 50 000 sur le continent de l'Australie. Estimation. 3 mois de temps terrestre pour extermination totale. 100 drones et 1 000 exterminateurs en cours de fabrication. Mise en fonctionnement, 15 jours terrestres. Répartition, 200 par continent. Alerte. Présence humaine détectée sur le site de Port-la-Nouvelle. Alerte. Présence humaine détectée sur le site de Port-la-Nouvelle.
Ils pénétrèrent dans le premier bâtiment. Leif avait finalement décidé de les accompagner.
Je sais, j'ai pas le courage de mes opinions. Je me vois mal rester seul. La lâcheté est également un héritage de la cité.
Aucun autre drone ni aucun cavalier ne s'était manifesté. Les seuls mouvements qu'ils avaient observés avaient été les courses furtives de lapins entre les herbes hautes. Ils s'étaient dirigés vers la construction la plus proche, un cylindre en verre et en acier d'une 50aine de mètres de hauteur. Après avoir franchi sans encombre la porte coulissante restée grande ouverte, ils se retrouvèrent dans un rez-de-chaussée entièrement vide, où régnait une chaleur et un silence étouffant. Ils gagnèrent les étages supérieurs par les escaliers, les ascenseurs ne fonctionnant plus. Les différentes salles ne présentaient aucune trace d'une quelconque activité. Ils grimpèrent jusqu'au toit en terrasse, d'où ils avaient une vue d'ensemble de l'ancien site technologique de Barpère. Une vingtaine de bâtiments émergeaient des cimes des arbres, séparés par d'élégants jardins que la friche n'avait pas eu le temps d'envahir. Des passerelles de bois légèrement voûtées enjambaient des bassins et des ruisseaux aux figures géométriques complexes. La présence de Martin Pêcheur et de Héron indiquait que des poissons pullulaient dans les différentes pièces d'eau.
Ils s'emmerdaient vraiment pas, les collègues, marmonna Leif.
Le site était réputé, fit Issa. Les chercheurs accouraient de toutes les cités de l'OCU.
Je n'ai rien vu qui ressemble de près ou de loin à des filtres. Je suppose que ces brillants cerveaux avaient réussi à concevoir des barrières isolantes complètement invisibles. Je crois me souvenir que leur spécialité était la nanotechnologie.
L'air interrogateur de Delune poussa Ganesh à préciser « des molécules » ou des particules minuscules intelligentes qui, assemblées, forment des structures pratiquement indestructibles.
Comme les armures des cavaliers ?
Sans doute. Le soleil éclaboussait les environs d'une lumière presque aveuglante, parant d'or le lac et, plus loin, la mer. Comme il souffrait de vertige, Yosp refusait de s'approcher du bord du toit et se tenait à quelques mètres du garde-corps. Naya avait remisé son pistolet dans sa ceinture. Bien qu'elle transpire sous le pan de tissu enroulé autour de son torse, elle refusait de s'en débarrasser. La présence des citadins exacerbait sa pudeur, surtout celle de Leif, qui toisait les hors-sites d'un air méprisant. L'attaque des drones se produisit alors que, ayant décidé de redescendre, il se dirigeait vers l'escalier.
MDC, MDC,
MDC. 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 Ganesh tressaillit. Sa biopuce s'était réactivée. Elle prenait le contrôle de son cerveau sans lui en demander l'autorisation. Il fit un bond de côté une seconde avant que se produise une explosion au centre de la terrasse. L'un des deux soldats, projeté à une hauteur de plusieurs mètres, retomba, inerte, sur le garde-corps. Les autres parvinrent à se réfugier dans l'escalier avant que ne retentisse l'explosion suivante. Ils dévalèrent les marches 4 à 4, retenant leur respiration pour ne pas inhaler l'air brûlant. Les drones se stabilisèrent au-dessus du toit et expédièrent des rafales continues de balles qui déchiquetèrent les murs. Ils ne s'arrêtèrent de tirer que lorsque les fuyards eurent atteint le palier du 10e étage.
« Putain de visite touristique !»
halta Leif.
« Les heures me disent, les hommes méchants, ils montent vers nous, ils veulent nous tuer !»
cria Yosp. Il se tenait recroquevillé dans un coin, la tête rentrée dans les épaules, les mains plaquées sur les oreilles.
« Tes heures, elles n'ont pas des trucs un peu plus sympas à nous raconter ?»
grogna Leif. Des bruits de pas montant des étages inférieurs confirmèrent les dires du petit homme.
« On fait quoi maintenant ?»
La peur transformait le visage de Leif en un masque grimaçant.
« On est pris entre le marteau et l'enclume !»
Archives de Port-la-Nouvelle, cité de Barpère. Mesdames, messieurs, c'est un honneur et un plaisir pour moi de vous présenter la nouvelle génération de biopuces mise au point par notre laboratoire. Comme vous le savez, le pôle de Port-la-Nouvelle est spécialisé dans le domaine des nano- et biotechnologies. Et c'est, à notre sens, l'alliage de ces deux disciplines de pointe qui nous permet aujourd'hui, et nous permettra dans le futur, une évolution fulgurante, irréversible, un nouvel âge. Nous pensons que le temps de l'humanité s'achève. Je veux bien sûr parler de l'ancienne humanité, celle qui a émergé avec la lenteur et les difficultés que l'on sait de son animalité. Une ère commence, celle de l'humanité augmentée, ou, ainsi que l'ont appelé certains philosophes et auteurs de science-fiction du XXe siècle, la post-humanité. Nous sommes sur le point de devenir des plus qu'humains, d'échapper à la fatalité qui frappe les hommes depuis les origines. La mort n'est plus une fin obligée. Nous pouvons désormais choisir notre destinée. La nouvelle génération de biopuces nous permettra en effet d'être en permanence reliés à la totalité des données disponibles depuis l'émergence de l'informatique dans la seconde moitié du XXe siècle, une masse de données quasiment infinie. Elle nous permettra ainsi de caresser le rêve humain dont nous trouvons les premières traces dans les plus anciennes mythologies. Le rêve de Gilgamesh, le rêve de Prométhée, le rêve d'Icare, l'aspiration de l'homme à s'élever au rang des dieux. Nous ne croyons pas au paradis post-mortem promis par les religions. Nous croyons à l'émergence, à la quintessence de l'intelligence humaine. Nous croyons au progrès incessant tel que décrit par Darwin et les évolutionnistes. Nous n'attendons pas d'hypothétiques promesses qui n'engagent que ceux qui les proclament. Nous rationalisons et utilisons toutes nos connaissances pour décider ici et maintenant de notre avenir, ou, plus exactement, de notre présent perpétuel. C'est donc à une mutation que je vous convie. Non pas moi, mais la nouvelle génération de biopuces. Avant de la généraliser, nous prévoyons de l'essayer sur quelques sujets que nous suivrons chaque instant de leur existence. Vous serez évidemment informés jour après jour des résultats de l'étude. Nous vous demandons de garder ces informations secrètes jusqu'à nouvel ordre. L'heure n'est pas encore venue de divulguer notre grand projet aux médias, ni aux populations des cités unifiées. Sachez encore que, lorsque l'OCU aura donné son aval à la mise en circulation des nouvelles biopuces, nous serons en mesure de couvrir l'ensemble des besoins en moins de 2 jours. Elles seront fabriquées sur le site de Port-la-Nouvelle, puis livrées par drone à chacune des cités. À titre personnel, en tant que catalan, je m'enorgueillis de la réussite d'un pôle auquel personne ne croyait. Je profite de l'occasion pour rendre hommage au génie visionnaire de Juan Soporta, qui réussit à faire de Barpère l'un des phares de l'ère des cités. Applaudissements nourris et prolongés. Il est temps, mesdames et messieurs, de célébrer notre réussite autour du buffet qui vous attend dans les jardins de l'Élysée. Merci de votre attention. Applaudissements.
Les bruits de pas enflaient rapidement dans la cage d'escalier. Ganesh estima le nombre des tueurs à une dizaine. 8 unités d'extermination. Rodag leva sa pique et, d'une allure déterminée, s'avança au bord du palier.
Tu crois peut-être que tu vas arrêter ces monstres avec ton bout de bois ?
Siffla Leif.
Tu as mieux à proposer, Leif ?
Gronda Issa.
J'aurais dû m'écouter et foutre le camp. Trop tard maintenant. Il ne nous reste plus qu'à crever comme des rats dans ce putain d'immeuble.
Leif lança un regard mauvais à Yosp, toujours recroquevillé contre le mur.
Tes heures n'ont pas une solution ?
Naya se serra contre deux lunes. Le guérisseur fixa Ganesh avec intensité.
Yosp a dit que nous aurions besoin de toi.
J'aimerais bien savoir comment.
MDC. MDC. MDC.
Un premier cavalier déboucha sur le palier. Les points lumineux de ses yeux transpercèrent la pénombre. Leif se précipita dans l'escalier et gravit les marches 4 à 4, mais une série d'explosions assourdissantes lui coupèrent la voie des étages supérieurs. Le cavalier braqua son arme sur le petit groupe, tandis que les autres tueurs arrivaient à leur tour. Rodag brandit sa pique en poussant un rugissement. Delune croisa le regard désespéré de Naya.
Prise de contrôle des unités. Prise de contrôle des unités.
Ganesh eut tout à coup la sensation d'être soulevé du sol, puis dématérialisé. Il se déplaça à une vitesse phénoménale, vertigineuse, et plongea tout entier dans un tourbillon de 13 étincelants. Il crut que ses cellules, ses molécules s'éparpillaient dans un espace à la fois minuscule et infini. Puis, il s'engagea dans une sorte de cul-de-sac à la clarté aveuglante. Une obscurité totale retomba sur les lieux. Il fut brusquement ramené dans son corps, reprit conscience de ses 8 compagnons regroupés sur le palier et des formes grises des cavaliers devant lui. Les points scintillants sur leur face avaient cessé de briller.
Unité sous contrôle.
Pourquoi ne tire-t-il pas ?
S'étonna Leif.
Leurs yeux se sont éteints, répondit Delune, comme si la vie était partie d'eux. Ils semblent déconnectés, renchérit Issa. Par quel miracle ?
Il ne s'agit pas d'un miracle,
coupa Delune. Il désigna Ganesh.
C'est la force en lui qui est intervenue.
Les cavaliers ressemblaient maintenant à des statues. Les canons de leurs armes restaient pointés sur le petit groupe.
« Comment ça ?»
grogna Leif.
« Ma biopuce a repris le contrôle, » répondit Ganesh. « Elle est intervenue sur leur programmation. »«
Une biopuce ne peut pas prendre ce genre d'initiative. »«
Il faut croire que la mienne le peut. En tout cas, Issa a raison, ils sont pour l'instant désactivés. »«
Après tout, on s'en fout du comment !»
glapit Leif.
« Profitons-en pour foutre le camp !»«
Où est passé votre collègue ?» demanda Issa au soldat.
Kowan a pris l'explosion de plein fouet. Aucune chance qu'il ait survécu.
Ils se faufilèrent entre les cavaliers figés, craignant à tout moment que ces derniers ne se raniment, et dévalèrent les marches jusqu'au rez-de-chaussée.
Il y a encore les engins volants dehors, fit Delune. Est-ce que tu peux les neutraliser?
C'est ma biopuce qui prend l'initiative des interventions, répondit Ganesh.
Si elle fait partie de la force, pourquoi t'aide-t-elle contre la force?
J'en sais rien. Elle n'est en théorie qu'un relais des matrices.
Connaissant la paranoïa citadine, je suis persuadé que les immeubles sont reliés entre eux par des passages souterrains,
intervint Leif.
Comme tous les bâtiments officiels de Nilopa, confirma Issa.
Ils cherchèrent l'entrée d'un éventuel passage, et dans un coin du hall, découvrirent un accès au sous-sol. Un escalier droit donnait sur une immense salle nue, étayée par des piliers de béton. Sur un côté, s'alignaient plusieurs boxes, où étaient garés des petits véhicules aux roues souples.
« Des voitures de golf !» commenta Leif. « Le site doit être équipé d'un parcours. »«
C'est quoi le golf ?» demanda Naya.
« Un sport où il faut expédier une balle dans une succession de trous à l'aide de sortes de cannes. Il était passé de mode après avoir connu une certaine vogue au XXe et XXIe siècle. »
Ils découvrirent à l'extrémité du sous-sol un sas métallique circulaire qui s'ouvrit sans difficulté, les systèmes d'identification étant neutralisés. Il s'ouvrait sur un tunnel entièrement capitonné d'une matière métallique lisse et, selon Leif, filtrante. Le rayon de la torche de Vance, le dernier soldat, perfora l'obscurité profonde qui emplissait le passage. Les claquements de leurs semelles sur la surface métallique ébranlèrent le silence sépulcral. Ils atteignirent un premier croisement au bout d'une cinquantaine de mètres.
« À droite, à gauche, tout droit ?»
souffla Leif.
« Je propose qu'on suive le passage de gauche, » suggéra Delune.
« Nous reviendrons ensuite sur nos pas, si ça ne donne rien. »«
C'est là ou une autre ?»
murmura Issa. « Faut bien commencer par une direction, de toute façon. » Ils s'engagèrent dans le tunnel perpendiculaire situé à gauche du croisement. Le rayon de la lampe éclaira un panneau métallique qui portait l'inscription « Paul Léonard de Vinci ».«
Léonard de Vinci ?» s'interrogea Naya.
« Un peintre et savant des 15e et 16e siècles, » répondit Ganesh. Ils parcoururent une centaine de mètres avant d'arriver dans une pièce carrée, d'où s'élevaient deux escaliers opposés.
« Si on est logique, on prend celui de gauche, » affirma Leif.
« À moins qu'on se sépare en deux groupes, » proposa Issa.
« Il vaut mieux rester groupés, » objecta Delune. « Nous pouvons avoir besoin les uns des autres. »
« Ah oui, l'admirable solidarité humaine !» grinça Leif.
L'escalier de gauche donnait sur un sous-sol meublé de machines cubiques et sombres, sillonnées de frémissements lumineux. Leif les examina un petit moment avant de déclarer
« Des stockages de données, je pense. Nanotech indestructible. D'une énorme capacité. Sans doute auto-réfrigérant, produisant sa propre énergie. Avant, il fallait des usines à gaz pour la conservation des archives. » Des bâtiments gigantesques, de l'eau à profusion pour refroidir le système. Les grosses têtes de Port-la-Nouvelle semblent avoir trouvé une solution nettement plus performante.
Ils dénombrèrent une trentaine de machines, toutes identiques. Elles émettaient un grésillement à peine perceptible.
Port-la-Nouvelle n'était pas seulement un site de pointe, reprit Leif, mais le centre technologique principal de l'OCU.
Ça veut dire que la force dont parle Yosp réside principalement ici ?
Demanda Delune.
Si, par force, tu veux dire intelligence artificielle gérant l'ensemble des cités, on peut affirmer que oui.
Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?
Les systèmes inventés par l'homme qui reproduisent, voire dépassent, l'intelligence humaine en utilisant des machines programmées. Il semble qu'elle ait échappé à notre contrôle.
Je croyais pourtant que les systèmes étaient équipés de garde-fous, destinés à les garder sous contrôle, objecta Issa.
Ils ont trouvé le moyen de les contourner ou de les détourner.
La force dont parle Yosp recouvre une autre réalité, à mon avis. Leif lança un regard courroucé, presque haineux, au petit homme.
Quelle crédibilité accorder aux pseudo-visions d'un mutant hors-site !
Archives de Port-la-Nouvelle, cité de Barpère. Nous sommes les conservateurs de la mémoire humaine. Grâce aux biopuces, nous avons archivé une masse fantastique de données personnelles, subjectives, qui, combinées entre elles, forment une conscience globale, une trame presque infinie. Qu'est-ce que la conscience, me direz-vous ? Les religions et les philosophies en ont donné des définitions différentes qui peuvent être grossièrement résumées par la perception de soi-même et des phénomènes qui nous entourent. Il faut à présent offrir à la technologie la dernière étincelle qui lui manque, la conscience d'elle-même. Il s'agit de la mutation ultime, de l'accomplissement du vieux rêve d'unité caressé par l'homme depuis la nuit des temps. La lumière solaire, filtrée par les parois de verre, tombait en flaques ambrées sur les dalles blanches du rez-de-chaussée. Ils explorèrent le bâtiment de bas en haut, ne trouvèrent que des pièces entièrement vides.
« Où sont passés tous les meubles ?» s'étonna Issa.
« Ils étaient probablement en nanotech, dotés d'une fonction autodestructrice, » répondit Leif. Dissociation et dissolution programmée des molécules, ou encore récupération et recombinaison. C'était l'un des objets d'étude de certains labos de Nilopa, le nec plus ultra en matière d'écologie.
Ils aperçurent par la baie vitrée de l'une des salles des drones en vol stationnaire au-dessus du bâtiment.
On dirait qu'ils nous pistent en permanence, fit Vance. Ils localisent sans doute la biopuce de Ganesh, déclara Leif.
Pourquoi pas les nôtres ? Demanda Issa.
Je suppose que certaines biopuces sont spéciales.
Ganesh prit conscience que sa présence mettait les autres en danger. Les ombres le suivaient à la trace.
Il serait sans doute préférable que nous nous séparions, que je continue seul.
Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, objecta Delune.
Je crois au contraire que, sans toi, nous n'aurons pas l'ombre d'une chance d'échapper à la force. Tu es notre bouclier.
Tu parles d'un bouclier ? Grinça Leif.
Sans lui, nous serions déjà morts. Nous devons rester à tout prix liés.
Un vieux proverbe dit « un rat qui se noie veut toujours en noyer un autre ». Il serait sans doute plus judicieux de nous diviser.
De Lune se demanda si la force n'était pas également tapie en Leif. Lui aussi disposait d'une puce à l'intérieur de son crâne. Lui aussi était peut-être utilisé à son insu. Il se souvint d'une phrase de Dent de Rat. Qu'était-il devenu, son maître, son père spirituel? Avait-il été tué par les cavaliers? S'était-il retiré dans l'un des nids d'aigle qui lui servait de retraite? La peur engendre la division. La division précipite la fin. Rodag s'approcha de Ganesh.
« Je reste avec toi, quoi qu'il arrive !»
dit-il en frappant le sol de l'extrémité de sa pique.
« Moi aussi ! Moi aussi !»
cria Yosp. Leif dévisagea le soldat et Issa, et lut la même détermination dans leur regard.
« Comme vous voulez, mais je persiste à dire que c'est une erreur. »
Le bâtiment suivant abritait les mêmes machines noires et cubiques dans son sous-sol. Archivage des données de l'OCU. Quel genre de données? Données personnelles de chaque citadin mémorisées sur Biopus. Dans quel but? Sauvegarde de la mémoire humaine. Sauvegarde avant extermination, c'est ça? Usage statistique et informatif. Uniquement? La Biopus de Ganesh demeura silencieuse. Il gravissait l'escalier au milieu du petit groupe qui s'échelonnait, sur les marches plongées dans la pénombre. Vance marchait en tête, suivi de Rodag, de Delune et de Naya. Derrière lui venaient Issa, Yosp, Yana et Leif. Ce sont les matrices qui ont programmé l'extermination des hommes. La Biopus ne fournit aucune réponse. Si les matrices sont les ombres, pourquoi me viens-tu en aide? Toujours pas de réponse. Le rez-de-chaussée, qui portait le nom de Charles Darwin, donnait sur un ravissant jardin éclaboussé de soleil, au milieu duquel se dressait une fontaine dont les gueules crachaient des jets d'eau courbes et irisées. Ils évitèrent de s'aventurer à l'extérieur. Comme dans les autres immeubles, ils ne trouvaient rien d'autre que des pièces entièrement vides. Aucune trace de l'activité exercée par les hommes entre les parois de verre.
« Il n'y a rien d'autre que ces satanées boîtes noires dans le coin !» vitupéra Leif. « Elle est où, cette putain de force ?»
Ganesh fixa le ciel au travers des parois vitrées. Il sentait une présence en lui, comme s'il hébergeait une deuxième intelligence clandestine, autonome, vigilante. Où sont localisées les matrices?
Pas de localisation précise.
Comment ça? Elles ont besoin d'énergie, d'une centrale proche. La Biopus parut se déconnecter. Il se retrouva soudain au centre d'un espace vide, froid. Un rugissement lacéra le silence.
« Les heures me disent, la force, elle vient! Elle veut nous tuer !»
brama Yosp. Le verre de l'une des parois éclata soudain en une pluie d'éclats coupants. Criblée d'impact, Yana fut la première à s'effondrer, suivie de Yosp et d'Issa.